Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi, en direct de 15h à 16h. Alors justement, pour vous informer, pour prendre soin de vous, il est à mes côtés tous les jours dans ce studio, à bonne distance bien sûr, et masqué, le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour. Exactement. Jimmy. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors, au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous parlerons de musique aujourd'hui et de ce à quoi elle sert d'un point de vue biologique pour l'être humain. Et oui, vous pensiez que la musique c'était simplement un passe-temps très agréable, alors ça reste vrai, mais elle nous est aussi quasi vitale pour la bonne construction de notre cerveau et même pour notre santé tout au long de la vie. Pour en parler, nous recevrons Emmanuel Bigan. Il est professeur de psychologie cognitive, membre de l'Institut universitaire de France et rattaché au CNRS à l'Université de Bourgogne. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, nous parlerons aujourd'hui de la goutte, cette maladie chronique qui provoque des crises, des poussées inflammatoires au niveau des articulations. On vous expliquera précisément les causes, mais aussi la façon de traiter cette pathologie. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous dira comment la drague, le flirt, peut s'adapter à l'heure de la Covid-19.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux. Vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par la question de Nathan.
Bonjour docteur Jimmy Mohamed et bonjour Mélanie. Nathan, 36 ans de Paris 5. J'avais une question à propos des restaurants et des sorties. On sait que dans certaines villes, à cause du virus, les restos vont être fermés. Mais pas trop loin de chez nous, il y a des restos qui sont encore ouverts. Alors, je me posais la question, est-ce que honnêtement, on peut s'en passer? Est-ce qu'il est prudent d'aller dîner dans ces restos entre amis, alors que dans certaines villes, ils seront fermés? Mais est-ce qu'on peut encore en profiter, d'autant qu'avec le sale temps actuel, les terrasses avec l'automne, c'est bientôt terminé. Donc voilà, c'était ma grosse interrogation de ce début de semaine.
Grosse interrogation pour beaucoup de Français. Jimmy, alors vous, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la fermeture qui a été imposée aux bars et aux restaurants à Marseille, d'un côté, et puis il y a des restrictions dans certains bars ailleurs, dans d'autres villes, à Paris notamment. Est-ce que ça faisait partie vraiment des mesures qui étaient nécessaires, selon vous?
Je pense que nous, les médecins, doivent faire très attention quand on commente des décisions politiques, et nous devons simplement les faire respecter. On ne doit pas dire c'est une bonne ou une mauvaise mesure. Il y a un Premier ministre qui nous dit ce que nous devons faire. On n'est pas plus intelligent que les autres. On n'a pas la science plus infuse que on n'est pas plus malin que les autres. Donc à partir de ce moment-là, on n'est pas là pour donner notre avis. C'était une mesure nécessaire dans le sens où il y a des trous dans la raquette. L'épidémie progresse et peut-être une des seules façons de soulager un peu l'hôpital et d'éviter cette première ou deuxième vague à Marseille, peu importe la sémantique, eh bien c'est d'essayer de colmater la brèche. Et ça passait par la fermeture des restaurants et des bars pour une durée d'une semaine, réévaluable au bout d'une semaine. Même si, très honnêtement, il y a de fortes chances pour que ça dure un petit moment. Ouais.
Alors, il y a beaucoup de cas, selon vous, parce que, est-ce qu'on sait quand même quel est le niveau, on va dire, de contamination dans les restaurants? On a une idée si c'est vraiment un endroit à très haut risque ou pas?
Oui, c'est un endroit à risque, puisque vous êtes dans une pièce qui est fermée, sans masque, avec du monde. Donc, évidemment, c'est une zone où vous pouvez tomber malade de la même façon qu'on a fermé les salles de sport. Maintenant, il y a une étude américaine qui prouvait que les personnes qui avaient fréquenté les bars et les restaurants avaient 2,4 fois plus de risque d'avoir le Covid que les autres. Et si jamais vous fréquentiez uniquement les bars, eh bien ce risque était multiplié par 4. Donc oui, c'est une zone où on tombe malade, c'est une zone où le virus circule et c'est une zone où on perd le contrôle du virus vu que personne n'a voulu télécharger Stop Covid alors qu'on a tous des applications qui ne servent à rien sur notre téléphone.
C'est là que ça serait utile. Ouais.
Eh bien, c'est là que c'était utile. Plutôt que demander au restaurateur de récupérer
noter,
le nom et le
ouais.
prénom, je pense qu'on aurait pu la télécharger et savoir si réellement des gens étaient tombés malades et avaient fréquenté ces lieux.
Alors, dans ces lieux-là, dans les restaurants et les bars qui sont encore ouverts aujourd'hui, qui ont le droit d'être ouverts ou alors avec des horaires limités, est-ce que c'est prudent pour vous et moi en ce moment d'aller manger au restaurant?
Il faut qu'on distingue deux choses. Les restaurateurs se sont beaucoup adaptés.
Vous y allez au restaurant en ce moment?
Je suis allé au restaurant, mais dans un restaurant qui respecte les distances. On n'est pas blindés les uns les autres. J'y vais avec un cercle familial proche, ma femme simplement, mes enfants si besoin,
c'est
mais
tout.
Pas les amis à droite ou à gauche, pas les tontons, les tatas.
Ça, c'est fini pendant quelques temps.
Pendant quelques temps. Les serveurs sont masqués, on met notre masque, on le retire au dernier moment. Donc je pense que les restaurants, on a le droit d'y aller aussi en fonction de la circulation du virus. Attention dans les zones très denses et les bars. Je pense que c'est vraiment à proscrire. On peut s'en sortir 15 jours sans bar.
Oui, je pense que ça devrait.
On peut survivre à ça. On a survécu
si
à bien pire.
On comprend bien sûr que pour ces professionnels-là, c'est très compliqué. Merci Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est la question de Samantha. On l'écoute.
Bonjour Mélanie. Bonjour Jimmy. J'aurais une petite question. Donc, j'ai lu sur Internet qu'il fallait faire attention à ne pas trop manger de réglisse, que ça pouvait provoquer de l'hypertension. Est-ce que c'est vrai ou c'est encore une fake news? Merci. Bon après-midi.
Bonne question, moi j'adore la réglisse en plus. J'en mange souvent des petits trucs en rubané, là, vous
Exactement.
Savez. Alors, est-ce que c'est vrai que ça pourrait avoir une action sur la pression artérielle?
Oui, et souvent les cardiologues vous demandent quelles sont vos habitudes de vie quand vous avez de l'hypertension artérielle. Ça peut être lié à l'alcool qui peut augmenter la tension, le sel, mais aussi le réglisse. C'est lié à une molécule qu'on appelle la glycyrrhizine qui augmente la pression artérielle, mais pas que. Elle a une action au niveau de l'absorption du potassium. Et donc, si vous mangez trop de réglisse, eh bien, vous allez avoir une baisse de potassium. Si jamais vous prenez d'autres médicaments ou que vous faites une activité intense, il y a un risque d'arythmie cardiaque. Et il y a un Américain récemment qui a fait une crise cardiaque sur une consommation excessive de réglisse.
Alors vous dites excessif, si je mange un petit bonbon, il ne va rien m'arriver, j'imagine.
Alors attention, parce que c'est aussi un édulcorant qui est présent dans d'autres bonbons. Donc soyez vigilants. L'Agence américaine du médicament considère que un petit réglisse, vous savez, le truc en rond là,
juste un petit bonbon,
pendant 15
ouais.
jours, suffit à avoir un impact. Et puis ça dépend évidemment de votre âge.
Bon, j'arrête ça, de toute façon, les bonbons, c'est pas bon pour les dents.
À 20 ans, on encaisse bien, après ça commence à être un peu plus dur.
Et je crois que c'est même interdit pendant la grossesse, juste pour terminer.
Oui, parce qu'on pense que ça a un impact sur le développement de l'enfant. C'est votre journal préféré, Mélanie, l'American Journal of Epidemiology, qui avait publié ça. On s'est rendu compte que les mamans qui consommaient du réglisse, eh bien, avaient des bébés qui naissaient un peu plus prématurément que les autres et qui avaient aussi peut-être une altération au niveau du quotient intellectuel. Donc, on ne veut pas faire peur aux gens, mais soyez vigilantes, on peut manger autre chose quand on est enceinte. Les fraises, ça marche très bien aussi.
Mais t'inquiète, il y a eu d'autres bonbons. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Samantha qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Emmanuel Bigan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc professeur de psychologie cognitive, membre de l'Institut universitaire de France et rattaché au CNRS à l'Université de Bourgogne. Et vous venez de publier un livre coécrit avec Barbara Tillman. Ça s'appelle La symphonie neuronale chez Human Science, dans lequel vous démontrez que la musique est loin d'être un simple passe-temps. On va y venir, elle nous est vraiment essentielle. Et cette nécessité biologique, bizarrement, alors moi je l'ai appris dans votre livre, elle remonterait dans l'histoire à beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine. L'homme de Cro-Magnon, grosso modo, avait déjà de la musique.
Oh oui, même probablement avant. On a des certitudes sur la période, puisqu'on a retrouvé des instruments de musique qui sont datés de 40 à 60 000 ans, qui sont des petites flûtes, qui ont des trous qui ne sont pas du tout placés n'importe comment, puisqu'on peut faire des intervalles très précis avec ces instruments. Donc ça laisse penser qu'il y avait un savoir-faire de lutherie, en quelque sorte, qui était tout à fait précis. Et donc, du coup, on peut imaginer que si ce savoir-faire était aussi développé il y a 60 000 ans, probablement l'activité avait déjà une pertinence bien avant.
Jimmy ?
C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément le langage verbal, mais ils se servaient de la musique, mais ils en faisaient quoi ?
Alors ça, c'est la grande question, de savoir si la musique était avant le langage ou comment les deux médiums ont cohabité. On peut penser que des sons musicalisés étaient utilisés, par exemple, pour la chasse, pour piéger les animaux, que ça aurait pu être une des origines des performances musicales, bien avant la possibilité de communiquer par un langage symbolique entre les êtres humains. Donc ça serait une raison d'être. Il y a d'autres raisons qui ont pu être avancées, que par la musique, les humains pouvaient se synchroniser et faire des activités qui avait plus de pouvoir pour manipuler des objets, etc. Et donc, ça serait une raison d'être de la musique. Donc, bien avant la possibilité de communiquer par la langue.
Professeur Bigan, on va revenir à nos temps modernes. Il y a eu de nombreuses découvertes ces 20 dernières années. Notamment, on a prouvé que même avant notre naissance, la musique joue déjà un rôle bénéfique dans notre développement quand on est un tout petit embryon, un fœtus. C'est le cas à partir de quel moment de la grossesse, par exemple ?
Alors, on pensait que c'était dans le dernier trimestre de la grossesse, et c'est vrai que c'est là où on a le plus d'études qui ont été faites. Alors, on faisait des études, on faisait entendre les sons par l'extérieur du ventre de la maman, et on regardait un petit peu comment les fœtus réagissaient, et surtout, qu'est-ce qu'ils mémorisaient. Et on s'est rendu compte que les fœtus mémorisent beaucoup d'informations, et ils peuvent garder en mémoire cette information pendant très longtemps. Même après la naissance, si on leur rejoue des petites mélodies qu'ils ont entendues avant la naissance, si on change des notes, eh bien, leur petit cerveau dit « Oh là là, c'était pas comme ça !» Je me rappelle que c'était pas comme ça. Donc il y a manifestement une réalité cognitive tout à fait pertinente de la musique bien avant la naissance. Et évidemment, la question, c'est de savoir pourquoi.
Ouais. Jimmy ?
Pourquoi ? Et aussi, la maman, lorsqu'elle s'adresse au bébé ou au fœtus, lui, il est capable de savoir si justement elle lui parle à lui ou si jamais elle parle aux autres, il arrive à reconnaître le son de sa voix, mais alors que le système auditif, il n'est pas très performant.
Alors, le système auditif, il commence à se mettre en place à peu près vers la 24e semaine. Maintenant, on a des expériences qui sont beaucoup plus ambitieuses, qui montrent que dès la 16e semaine de gestation, le bébé pourrait entendre. Donc, restons sur les hypothèses les plus prudentes. La 24e semaine, il commence à entendre un certain nombre de choses, mais tous les éléments musicaux qui sont liés à la communication, c'est-à-dire le rythme, les changements de hauteur, ça, c'est bien perçu par le bébé. Il sait les analyser et donc il sait si la maman s'adresse à d'autres personnes ou s'adresse à lui. Il y a des caractéristiques rythmico-mélodiques qui sont différentes. Mais ce qui est surtout important, c'est que le bébé comprend cela par des paramètres musicaux. Donc en fait, tout est musique avant même la naissance. Et c'est parce que cette musique parle de la maman, si elle est en pleine forme, si elle est avec des gens avec qui elle est contente, ou si au contraire elle est dans une dispute, et de ses états émotionnels qui sont importants pour le bébé, que le bébé fait attention à cela. Donc ça, c'est une des premières raisons pour laquelle le cerveau du fœtus a tout intérêt à développer des neurones pour comprendre ça.
Est-ce que ça a un intérêt pour les femmes enceintes, justement, de stimuler, je ne sais pas, cet éveil musical d'une façon ou d'une autre quand elles sont enceintes pour le bébé? Est-ce que ça fait du bien à leur cerveau, à leur développement, quand ils sont encore dans le ventre?
Alors, si pour la maman, c'est un mode naturel d'interaction avec son bébé de faire de la musique, oui, super, parce qu'en fait, le bébé, ce n'est pas tant la musique, ce n'est pas un mélomane à ce moment-là. Lui, il veut juste comprendre l'état de sa maman et ce qui se passe d'important. Donc, si la musique est un moyen naturel pour la maman de s'exprimer, oui, bien sûr, ça va être très utile pour le bébé. Maintenant, si la maman n'aime pas du tout la musique et met un casque pour faire écouter du Mozart en pensant tout à fait autre chose, je ne suis pas du tout sûr que ça intéresse le bébé. Le bébé s'intéresse à la maman, pas à Mozart.
Jimmy ?
Et on sait si le fœtus qui est exposé à la musique peut lui aussi faire des vocalises, non pas parler, mais il faut aussi du bruit, il réagit.
Alors, les études les plus surprenantes, alors il faudra les confirmer, elles ont été faites il y a 2-3 ans par un institut à Barcelone qui a montré que lorsque le fœtus, dès la 16e semaine de gestation, entend de la musique, sa bouche et sa langue font des mouvements de parole, était en train de répondre par la parole. Alors, ça peut paraître complètement surprenant, mais ça pourrait vouloir dire que la musique est un super stimulus déclencheur du langage. Et on sait que...
Ils apprennent à parler déjà à 16 semaines de grossesse.
Ils mettent en place les schémas de la communication. En fait, le bébé, avant la naissance, se prépare à la vie sociale qu'il va avoir. Et donc, mettre en place les schémas de communication font partie de ses objectifs. Et donc, la musique pourrait contribuer à cela.
Et ces bébés qui font des vocalises, dans cette étude, je ne sais pas si celle de Barcelone ou une autre,
oui,
mais il paraît qu'ils aiment particulièrement la flûte et la voix de Mickey Mouse.
Alors voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est des études qui sont faites avec une petite flûte qui joue des mélodies. Et lorsque le bébé entend cela, il va répondre par des mouvements de parole. Des mouvements de parole, il ne parle pas, mais enfin, il y a la bouche et la langue qui font exactement ces mouvements-là. Ce qui suppose déjà une connexion neuronale entre l'audition et la motricité, le cortex moteur, qui sont particulièrement élaborés pour ce date de gestation. Et donc, on peut penser que, et on a même montré que si on fait entendre de la musique, c'est mieux la musique que la voix.
Et Mickey Mouse, ils aiment Mickey Mouse.
Ils aiment Mickey Mouse parce que toutes les caricatures, c'est ce qu'on appelle les super stimulus, c'est-à-dire que les stimulus qui sont encore plus caricatureux que les vrais, déclenchent ces réponses.
Merci beaucoup Emmanuel Bigand. Nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons poursuivre cette symphonie neuronale. On va s'intéresser plus précisément à l'intérêt et aux bienfaits de la musique chez les enfants un peu plus grands. Vous verrez par exemple que la musique contribue à leur bon développement et s'avère aussi un excellent soutien scolaire. On va vous détailler tout ça, donc restez bien sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, Emmanuel Bigand. Vous êtes professeur de psychologie positive, pas positive, cognitive, pardon. Mais c'est positif aujourd'hui, vous avez santé, je suis très emballée par l'émission. Vous êtes rattaché au CNRS à l'Université de Bourgogne et vous êtes aussi le co-auteur du livre que Jimmy va montrer, la symphonie neuronale chez Human Science. Alors professeur Bigand, on a parlé des bébés, juste avant, on va parler à présent de l'importance de la musique chez les enfants un petit peu plus grands. Là aussi, je crois que les preuves ne manquent pas, et notamment chez les petits enfants. On sait aujourd'hui que la musique, c'est un bon moyen de contrôle des émotions. Expliquez-nous.
Ben oui, le contrôle des émotions pour le bébé, en fait, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si le bébé a affaire à des angoisses et est seul face à ses angoisses, il va investir beaucoup d'énergie qu'il ne va pas mettre dans son bon développement. Donc la prise en charge émotionnelle du jeune bébé par la maman, c'est vraiment une activité très importante, et la musique joue un rôle pour cela. Donc à chaque fois qu'on peut réguler l'émotion du bébé, on facilite son développement. C'est bête à dire, mais c'est vraiment une réalité. Donc ça, c'est pour les tout petits bébés. Et en même temps, le bébé va comprendre que c'est un mode d'interaction avec sa maman. Il attire l'attention de la maman par des jeux musicaux. Et donc, il y a une communication qui se crée. Et cette communication a des enjeux adaptatifs tout à fait importants. Et elle contribue à développer des neurones pour développer des capacités musicales, même si la musique du jeune bébé ne correspond pas à celle que nous on écoute, mais c'est le même fondement cognitif.
Est-ce que cette musique pourrait avoir un pouvoir affectif? Par exemple, au moment où l'enfant doit aller à la crèche, il peut se mettre à pleurer. Est-ce que la musique pourrait aider pour détourner un peu son attention?
Alors la musique peut aider tout à fait, non seulement à détourner l'attention, mais c'est un peu ce qu'on appelle en psychologie clinique un objet transitionnel. C'est-à-dire c'est un moyen de prendre de la distance par rapport à ses émotions. Dans le livre, on cite l'exemple de cet enfant qui demandait sa maman en crèche. Et donc on a fait une chanson sur la maman absente. Et sur, on a pris un air connu, puis on a fait un texte pour jouer avec le fait que la maman n'était pas là. Le fait de mettre ça en musique.
Sur mon beau sapin, je crois.
Sur mon beau sapin.
Oh, ma petite maman te manque.
Exactement. On ne va pas chanter
non.
Là. Mais donc, c'est un moyen pour l'enfant de prendre des distances par rapport à son émotion et de la contrôler. Ce qui est extraordinairement important parce que l'enfant ne doit pas perdre en quelque sorte son énergie interne à gérer ses angoisses. Il doit la mettre dans du développement positif. Et donc, cette canalisation de l'énergie est tout à fait utile chez les tout petits, bien sûr.
Professeur, vous écrivez aussi que chez les enfants, la musique favoriserait la sociabilité. C'est-à-dire comment ça fonctionne?
Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Chez les enfants, même tout petits de quelques mois, on a fait des études qui montrent que si vous avez une interaction musicale avec un enfant que vous ne connaissez pas, cet enfant va avoir beaucoup plus d'attention pour vous. Et donc, une étude tout à fait remarquable où l'expérimentatrice laisse tomber un objet par terre. Si elle a eu l'occasion de faire de la musique avec cet enfant, l'enfant va lui ramener l'objet quand elle lui demande de le ramener.
Sinon, il lui jette à la figure.
Il ignore où il part avec.
Ah,
donc, les résultats sont tout à fait surprenants. Et en fait, c'est vraiment ça, quelque chose qu'on essaye de découvrir maintenant. C'est pourquoi la musique a ce pouvoir d'empathie sur les tout-petits.
Jimmy ?
Est-ce que ça pourrait créer aussi un esprit fédérateur dans une classe, chanter tous ensemble, créer une petite musique, c'est important?
Oui, il y a même des professeurs qui l'utilisent tous les matins. Ils demandent, alors il y a différentes façons de le faire, mais à un élève de venir avec 3 minutes de musique et on écoute la musique de l'élève. Et le fait même d'écouter la musique qu'un élève a choisi, mais ça met toute la classe dans un certain état d'esprit. Il y en a d'autres qui font chanter. Et probablement, on y parlait en début d'émission, c'est peut-être une des premières fonctions de la musique, c'était d'avoir fait la cohésion des groupes humains pour affronter des difficultés, pour montrer à d'autres groupes qu'on était plus fort que les autres, etc. Donc ce pouvoir de cohésion sociale est véritablement important, y compris chez les enfants.
Alors, très intéressant aussi, la musique faciliterait les acquisitions scolaires. On est en période de rentrée, ça nous intéresse. Comment on peut l'utiliser pour que nos enfants soient les meilleurs possibles à l'école?
Voilà, alors ça, c'est évidemment la grande question. On a tous envie que nos enfants se développent mieux, y compris et plus de facilité pour l'école. Il y a eu beaucoup d'études et les résultats sont tout à fait surprenants. Je voudrais juste citer une belle étude qui est mal connue de l'Université de Bourgogne par mes collègues Bruno Minga et Suchot. Et ils ont fait une étude sur un très grand nombre de classes en dernière année de maternelle. Ils ont montré que plusieurs années après une sensibilisation à la musique en première année de maternelle, on a des facilitations dans les acquisitions scolaires pour la lecture, pour l'écriture,
oui,
etc. Donc ce sont des effets à long terme. Une année et à raison de 2 heures par semaine de musique
dans les grandes
classes de maternelle, ça a un effet sur plusieurs années. Vous voyez, par les tant d'économies.
Vous avez dû faire beaucoup de musique pour faire médecine derrière. Jimmy, j'imagine que votre enfance était musicale.
Ah bah non, faire de la musique, ça veut dire quoi? Ça veut dire chanter ou aussi faire un instrument de musique?
Ce sont des ateliers, dans cette étude-là, ce sont des ateliers de participation musicale.
Simplement
donc il y a
du
rythme, il y a du chant, il y a un petit peu d'écriture, un petit peu de technique, mais c'est vraiment
c'est
de la musique.
C'est pas devenir guitariste professionnel,
voilà, c'est
ou je ne sais
pas
quoi.
C'est pas de la musique comme on peut avoir dans les écoles spécialisées, etc. Mmh. C'est vraiment une animation musicale un petit peu construite, mais ça a déjà des effets à long terme. C'est assez extraordinaire.
Alors être musicien, c'est peut-être encore mieux. Du coup, pour les enfants, on imagine, mais est-ce que si on force son enfant à faire des cours de violon qu'il déteste, ça aura ces mêmes bénéfices sur son cerveau, sur ses acquisitions?
Alors là, c'est déjà compliqué parce qu'il peut y avoir des effets pervers, si je peux dire, de la musique. C'est-à-dire que si elle est mal faite, mal enseignée, trop enseignée et à contre-cœur pour l'enfant, on n'est pas du tout sûr, nous, scientifiques, qu'on aura des effets positifs. D'une certaine façon, vous avez les mêmes effets pervers dans le sport. Si vous faites trop de sport, trop mal, mais vous avez un corps qui a beaucoup souffert et qui peut être très vieux à 40 ans, alors que ce n'était pas du tout le but.
Donc, il ne faut pas forcer. C'est pas... S'ils aiment ça, il faut encourager vraiment. Ça, c'est important.
Voilà, je pense que la musique, c'est une communication avec les autres. Et si c'est un moyen de bien vivre avec les autres, oui, effectivement, l'enfant va en tirer tous les bénéfices.
Professeur Bigan, on va faire une courte pause. On continue, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant. On va poursuivre ce voyage musical aujourd'hui qui nous fait du bien. Juste après, on parlera de la musique, de l'intérêt de la musique pour notre cerveau d'adulte. Vous verrez notamment que la musique permet de lutter contre le vieillissement cognitif et pourrait même remédier à certaines pathologies du cerveau. On vous en dit plus juste après, alors restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Emmanuel Bigan. Vous êtes professeur de psychologie cognitive rattaché au CNRS de l'Université de Bourgogne, mais vous êtes aussi le co-auteur avec Barbara Tillman du livre La symphonie neuronale chez Human Science. Alors, on va passer à présent aux bénéfices de la musique sur le cerveau des adultes. Je crois que vous dites que la musique et la variété de styles musicaux auxquels on peut s'exposer permet de travailler notre flexibilité cognitive. Expliquez-nous simplement ce que ça veut dire.
La flexibilité cognitive, c'est un petit peu comme la flexibilité du corps, en fait. Il y a des gens qui sont un peu rigides, vous le savez, on a même une expression qui dit psychorigide. Ouais. Et puis il y a ceux qui peuvent passer d'un sujet à l'autre, qui peuvent changer d'activité, etc. Et la musique, par sa diversité stylistique, stimule toutes ces capacités-là. Quand vous écoutez un style de musique, vous passez à un autre style de musique qui est très différent, que vous multipliez les opérations comme ça, ben, vous entraînez la flexibilité cognitive.
Donc Jimmy doit être rouillé, il écoute que du rap, c'est pas terrible. Il vaudrait mieux qu'il varie un peu, qu'il passe de quelques symphonies classiques à du rap, à passant par du rock, c'est mieux.
Bah, c'est pas le rap qui est en question, le rap c'est très bien, mais c'est le style, oui, rester cantonné à un style, c'est un peu dommage, aussi plaisant soit-il, c'est dommage parce qu'on a des milliards de styles. Regardez, si on pense à tous les styles qui existent dans l'histoire et dans la géographie, toutes les cultures différentes, on a de quoi s'oxygéner le cerveau.
Et
le rendre bien flexible.
Jimmy.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau si la musique, on dit, adoucit les mœurs? Est-ce que vraiment il y a de la chimie qui se passe et qui fait que on se sent apaisé par une symphonie, par exemple?
Oui, ça, c'est un peu la grande découverte des neurosciences actuelles. C'est qu'on pensait que le plaisir musical était une sorte de plaisir intellectuel, mais qui n'avait pas vraiment de substance, ou alors qui stimulait que les réseaux vraiment néocorticaux du cerveau. En fait, non, on s'est rendu compte que la musique change l'état biochimique du cerveau. Et par exemple, lorsque vous écoutez de la musique qui est très plaisante, bien ça stimule les circuits de la récompense, qui sont des circuits extrêmement archaïques et qui produisent notamment de la dopamine, qui est un transmetteur, qui est un neurotransmetteur essentiel pour la sensation de plaisir, mais aussi pour l'action. Donc on a fait beaucoup d'études qui montrent que en fait le plaisir musical change complètement la production hormonale, la production de neurotransmetteurs au sein de notre cerveau, change l'état biochimique du cerveau. Donc c'est un vrai effet en profondeur. L'avantage, c'est que ça reste, ces changements, même si la musique s'est arrêtée. Vous voyez, vous avez une expérience musicale tout à fait intense, mais vous pouvez en avoir des effets positifs pendant plusieurs semaines.
Et si ça change donc toute cette biochimie cérébrale d'écouter de la musique, est-ce que ça pourrait pas être aussi avoir une action physique, par exemple antidouleur, puisque ça fait sécréter de bonnes hormones? Est-ce que on pourrait utiliser la musique comme un analgésique?
Oui, on l'utilise tout à fait, exactement, pour aider les gens qui souffrent, les patients fibromyalgiques. On a dirigé une thèse avec le neurologue Gérard Mick à Grenoble sur cela. Comment on peut soulager la douleur des patients chroniques avec la musique? Alors, ce que l'on voit, c'est qu'on n'enlève pas complètement la douleur. On n'est pas dans un monde magique, mais on peut diminuer la dose de médicamentation. Ouais. Et pour des gens qui ont des problèmes à supporter ces médicaments, ben, c'est parfois l'unique recours.
Bien, ouais, bien sûr. Jimmy?
Et ça stimulerait aussi ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. En quoi ça consiste concrètement?
Alors, la plasticité cérébrale, c'est le fait que vous avez plein de neurones qui sont connectés ensemble et qui communiquent par des petits points de rencontre qu'on appelle des synapses. La plasticité, c'est d'augmenter ces points de rencontre et d'améliorer le fonctionnement de ces synapses. Et ce que l'on montre, c'est que la musique fait travailler différents groupes de neurones. Quand différents groupes de neurones travaillent au même rythme, ce que fait la musique, eh bien, la connexion entre ces synapses s'améliore. Donc on a des effets de plasticité.
Ça vaut vraiment le coup d'écouter plein de musique et plein de musiques différentes,
et d'en faire aussi,
de types variés, bien sûr. On va passer maintenant au bienfait de la musique, mais alors quand le cerveau déraille, entre guillemets, ou est malade, justement, vous en parlez beaucoup dans votre livre, on sait par exemple que la musique, l'exposition à la musique serait bénéfique pour les patients atteints d'Alzheimer.
Oui, ça c'est les découvertes peut-être les plus extraordinaires qu'on a faites dans les 10 dernières années, de montrer que lorsque le cerveau est atteint, vous avez des modifications psychologiques, neuropsychologiques qui se produisent, mais que la musique peut contribuer à réorganiser, à relancer une plasticité cérébrale pour essayer de récupérer certaines fonctions. Par exemple, des patients qui, à la suite d'AVC, ont perdu le langage ou un certain nombre de facultés psychologiques, s'ils écoutent de la musique pendant 2 heures tous les jours pendant 3 mois, vont récupérer plus de capacités psychologiques générales que des patients qui font une rééducation standard.
Incroyable.
Donc la musique est un vecteur de neuroplasticité et du coup, on a essayé de regarder comment elle pouvait être utilisée pour l'accompagnement des patients Alzheimer, des patients parkinsoniens, des patients aphasiques et tout un ensemble de patients.
Jimmy ?
Est-ce que ça permettrait aussi de lutter contre le vieillissement du cerveau ? Est-ce que par exemple, les musiciens ont un cerveau qui vieillit moins bien que le mien ou celui de Mélanie, par
mieux
exemple.
Mieux même, mieux.
Alors, ce qu'on a montré, effectivement, des études montrent que les cerveaux musiciens sont moins sujets à certaines pathologies. On a montré des choses tout à fait surprenantes. Si vous avez fait 10 ans de musique, vous avez pendant toute votre vie des capacités bien meilleures pour comprendre le langage dans des environnements bruités, par exemple. Et ça, c'est très utile parce que si à 60 ans, vous commencez à avoir du mal à supporter les conversations de groupe parce qu'il y a trop de bruit, eh bien, ça vous permet d'avoir une vie sociale social prolongé, ce qui est un moyen de lutter contre le vieillissement cognitif. Donc actuellement, les enjeux des études actuelles, c'est de confirmer cela. Et ce que je peux vous dire, c'est que oui, si vous voulez faire de la musique, vous aimez ça, vous n'en avez jamais fait, faites-en, vous vieillirez cognitivement moins vite.
Pour terminer, un point plus étonnant, je dirais, vous écrivez dans votre livre que la musique serait intéressante pour la prise en charge des personnes atteintes de surdité. Alors là, il faut nous expliquer, je ne comprends pas comment ça peut marcher.
Alors les personnes atteintes de surdité bénéficient d'appareillages. Parfois, les appareillages, notamment chez les enfants, sont tardifs. Donc il y a beaucoup de retard pour réapprendre un certain nombre de choses. Réapprendre par le langage, c'est moins efficace que réapprendre par la musique. On a eu beaucoup de thèses qui ont été développées sur cela. Chez les personnes âgées qui perdent l'audition, eh bien, elles ne vont pas bénéficier de tous ces effets de la musique sur le vieillissement cognitif. Donc on a tout intérêt à les appareiller, voire à les implanter, justement pour leur donner accès à ces expériences musicales, qui sont des expériences musicales, mais aussi fondamentalement psychologiques, puisque ça permet d'entretenir la flexibilité mentale, la flexibilité cognitive.
Merci beaucoup, professeur Bigand, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et pour ceux donc qui voudraient en savoir encore plus sur les bienfaits, sur le rôle essentiel de la musique sur notre santé, je rappelle le titre de votre livre, La symphonie neuronale chez Humaine Science. Merci encore.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Nous parlerons aujourd'hui de la goutte, cette maladie chronique qui provoque des crises, des poussées inflammatoires au niveau des articulations. On vous expliquera précisément les causes, mais aussi la façon de traiter cette pathologie. Alors, à tout de suite.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en direct. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors, il est temps maintenant de passer à notre séquence, les mots du quotidien. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la goutte. Savez-vous précisément ce qu'on appelle une crise de goutte? Quels sont les symptômes de cette pathologie et surtout, quel est son traitement? Nous allons faire le point, bien sûr, mais avant, on va écouter vos connaissances sur le sujet dans le micro-trottoir de Benjamin Lévesque.
La goutte. Ah, ça me dit quelque chose, j'ai lu ça dans un livre, genre... C'est pas une maladie ancienne.
Je dirais, à part celle qu'on a au nez, je saurais pas rebondir sur le terme.
C'est pas quand ils ont la goutte au nez parce qu'ils sont torchés. Non, je pense que c'est une maladie de peau, mais je suis pas sûre.
Les c'est personnes bien. Qui ont des problèmes avec l'alcool, alors.
Quand tu bois trop d'alcool, en fait, tu peux choper la goutte.
Une maladie ancienne de type la peste.
Ouais, des douleurs dans le ventre.
Ah ouais, nez rouge, genre rhume. Du coup, vu que quand tu bois, t'as le nez rouge.
Ça va être ridicule, mais je pense que ça rend le nez rouge chez les Français.
Avant, on en mourait, maintenant, il y a des traitements contre la goutte, etc.
Jimmy, on n'y tient plus, s'il vous plaît, dites-nous tout sur la goutte. C'est quoi cette maladie?
Le suspense est à son comble. Le peuple, j'ai cassé le micro. Voilà,
voilà,
tout va bien.
Non, ça va, ça marche.
Alors, c'est une maladie chronique qui est due à l'excès d'acide urique.
D'accord.
L'acide urique, lorsqu'elle est trop élevée, on parle d'hyperuricémie. Alors, c'est des microcristaux qui peuvent se déposer lorsqu'ils sont en trop grande quantité dans les tissus et notamment dans les articulations. Et ça va vous donner ce qu'on appelle des crises de goutte que tout le monde connaît, avec des douleurs assez insupportables, bien caractéristiques, que souvent les patients diagnostiquent avant même que le médecin les voit.
Ah ouais. Est-ce que c'est très fréquent? Parce que dans le micro-trottoir, on entendait quelqu'un qui disait « bon, c'est une vieille maladie, ça n'existe plus ». Donc on a bien compris que si, mais c'est quoi les causes? Est-ce que c'est fréquent en population?
Alors pour l'histoire de la crise de goutte, Stéphane Bern, à mon avis, sera beaucoup plus pertinent que moi. Mais néanmoins, c'est une pathologie qui est très fréquente. C'est la plus fréquente des arthropathies, donc des maladies rhumatismales inflammatoires, dans la population occidentale. C'est 1% de la population.
D'accord.
Et les hommes sont un peu plus affectés que les femmes. Alors, il y a des facteurs. Évidemment, il y a une prédisposition génétique, mais ça ne suffit pas. C'est aussi lié à nos comportements, notamment nos comportements alimentaires. On est aussi un peu trop sédentaire et ça peut entraîner la crise de goutte. Et puis, il y a certains traitements, notamment les diurétiques, ces médicaments qui vont vous faire uriner pour faire baisser la pression artérielle, qui peuvent déclencher des crises de goutte. Et puis, il y a d'autres maladies comme l'insuffisance rénale.
Qui peuvent conduire à la goutte.
L'obésité, qui peuvent être un facteur favorisant d'une éventuelle crise de goutte.
On nous avait déjà dit, ça n'a pas l'air très sympa et les patients souvent se doutent de ce qu'ils ont avant que vous arriviez, vous le docteur. Mais comment on reconnaît une crise de goutte?
Tout d'abord, il y a un facteur déclenchant. On sait qu'on a commis un petit écart, un petit excès.
On a bu trop d'alcool,
on a mangé trop de poisson, trop de viande. Et bien à ce moment-là, on peut avoir une petite crise. Et donc, on a mal. Et là où on a mal, c'est au niveau du pied. Souvent au niveau du gros orteil. Il est chaud, il est douloureux, il est inflammatoire, ça lance comme si vous avez un petit abcès, c'est insupportable. Et plus rarement, lorsque la maladie n'est pas traitée correctement, lorsqu'elle évolue, elle peut toucher d'autres articulations, mais ça reste plus rare. L'immense majorité des patients...
Ça commence aux orteils, aux pieds.
C'est plutôt les orteils.
Comment ça se traite, Jimmy, la crise de goutte? Et j'espère que ça se traite, justement.
Dans un premier temps, on traite la crise. Mmh. Ça passe par soulager la douleur, donc des antidouleurs. Mais ça ne suffit pas, il faut souvent donner des anti-inflammatoires, qu'ils soient non stéroïdien ou peu importe le nom, mais souvent de la colchicine qui calme la crise. Souvent, on prend des médicaments jusqu'à ce que la crise cède. Et puis la question, c'est pourquoi vous avez fait une crise de goutte ? Est-ce que votre uricémie est trop élevée ? Alors, deux situations. La première, si jamais c'est la première fois que vous faites une crise de goutte, ben, on va vous laisser tranquille. On ne va pas vous donner un traitement, on va vous expliquer quelles sont les règles à appliquer. Mais si ça ne suffit pas et si jamais vous faites crise sur crise sur crise, on vous donne un traitement de fond. Mais d'abord, on traite la crise et puis à ce moment-là, votre traitement, il fait partie des traitements chroniques que vous devez prendre tout le temps, comme le traitement contre l'hypertension ou le diabète.
Parce que ça peut devenir une maladie chronique, donc à vie, hein, c'est ça ?
Exactement, on peut faire des crises si jamais on est bien équilibré, ou si jamais on corrige certains facteurs de risque. On est un peu trop dans une médecine curative, mieux vaut être prédictif, et donc essayer de limiter la consommation d'alcool, de perdre un peu de poids. En règle générale, ça peut suffire, surtout en évitant les excès. On ne dit pas de vivre comme un moine, mais quand même, on peut se limiter, surtout que les patients ils se rendent compte, ils me disent tout de suite, bon, ce week-end, j'ai un peu déconné, j'ai pris un peu trop d'alcool, donc évidemment, j'ai une crise de goutte. On réexplique les choses et puis en règle générale, ça passe tout seul.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions claires comme une goutte d'eau de roche. Merci beaucoup. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors n'hésitez pas, bien sûr, et restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed évidemment. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on a choisi de parler d'un thème d'actualité, de la drague à l'heure de la Covid. Catherine, on va être honnête, pour les célibataires en mal d'amour en ce moment, c'est clairement pas la meilleure période pour trouver l'âme sœur, non ?
C'est pas facile, effectivement, pour eux, bien sûr, et puis même pour tous les jeunes qui découvrent l'amour, la sexualité, les premiers liens les uns avec les autres. C'est extrêmement compliqué puisqu'il est question de séduction, il est question aussi de passage à l'acte, de baisers, de caresses, de main dans la main, et que tout cela, évidemment, est particulièrement bousculé par notre système, la situation sanitaire.
Jimmy ?
Pourtant, Catherine, moi j'ai l'impression d'être plus beau avec un masque. Si jamais je le retire, c'est
vous qui le dites.
Non, mais c'est la catastrophe.
Non, mais c'est-à-dire, au moins on ne vous voit pas trop.
Exactement, on ne se voit pas trop. Et donc on peut jouer sur le doute en disant, mais tiens, il a l'air pas mal. Alors je ne parle pas de moi,
mais quand il baisse le masque, le
quand
jour où il baisse
le masque,
masque
là, c'est la catastrophe.
Vous pouvez aussi jouer au docteur, c'est ça, dans l'esprit de l'autre, etc. Vous êtes.
Quand ça rebute quand même le fait d'avoir un masque, on essaie d'être un peu à distance des autres. Non, ça ne favorise pas l'interaction sociale, le masque.
C'est assez difficile, effectivement, puisque les gens sont. Enfin, ça raconte le fait qu'il y a une inquiétude, qu'il y a un risque les uns vis-à-vis des autres.
En même temps, c'est tout le monde, alors c'est pas si gênant que ça, non, puisqu'on est tous à la même enseigne, finalement.
Bien sûr. Alors, ça nous oblige à être particulièrement expressifs au niveau des yeux.
Ah oui, moi, j'ai jamais autant souri des yeux.
D'ailleurs, vous louchez, Mélanie, attention, ce n'est pas bon, je vous dis, vous allez finir par rester bloqué.
Non, alors, c'est vrai que ceux qui ont des doutes quant à eux, ceux qui ont des bagues au niveau des dents, ceux qui ont des complexes, des boutons, etc. Alors, je suis pas sûre que les boutons soient améliorés par le masque, mais en tout cas, seront effectivement ponctuellement un peu protégés. Mais le fait est qu'à un moment donné, il faut pouvoir se regarder, imaginer qu'on puisse se fréquenter, se rapprocher. Et le masque, évidemment, est source d'anxiété.
Parce qu'il faut dire ce qui est, Catherine, on se voit pas bien. Et le physique, au tout début, en tout cas, quand on parle de drague, c'est quand même le premier truc qu'on regarde, non ? Le physique de l'autre, je veux dire.
Bien sûr. Alors là, c'est sûr qu'on va pouvoir dire qu'on va développer le côté plutôt intellectuel ou de capacité d'échange. Bien sûr, c'est pas mal. Mais effectivement, ne nous leurrons pas. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est l'autre vu de loin. Vu de loin, et tout ce qu'il va symboliser pour nous, ce qu'il représente. Alors évidemment, tout son corps, mais son visage aussi. Et ce que son visage raconte de possibilités, d'accueil également. Parce qu'on a besoin, en fait, pas tellement de voir l'autre tel qu'il est. Donc tout à l'heure, on plaisantait les boutons ou ce qu'on cache de soi. Mais on a besoin de voir comment l'autre nous voit. Et donc, pour ça, on a besoin de tout ce que nous renvoie son visage, de notre valeur, de notre qualité et de ce que l'on séduit ou ce que l'on adoucit chez lui par notre seul contact.
Et puis, ça fait des économies de bonbons à la menthe, vu qu'étant donné, il n'y en a plus de problème d'haleine
de rouge
à ce moment-là.
Aussi.
C'est vrai, les rouges à lèvres, mais néanmoins, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir, par exemple, des applications ? Est-ce que d'essayer de rencontrer des personnes différemment, puisque aller dans un bar en ce moment, ce n'est pas franchement recommandé ?
Oui, ça c'est sûr. Bon, la Covid n'a pas inventé les réseaux, ils étaient déjà très très actifs. Ça pose toujours la question de la facilité, de l'aisance que nous avons avec les réseaux sociaux. Certains sont au contraire protégés par ce biais-là, d'autres au contraire encombrés. Mais en tout cas, ça oblige effectivement à retrouver le côté épistolaire, le côté aussi, si on ne vire pas trop au fictif, pas trop à des images de soi transformées ou des discours aussi transformés à force de trop de réflexion, ça ouvre le champ de possibilités nouvelles de toute façon.
Bon, de notre côté, l'avantage, le seul avantage entre guillemets du Covid, d'un point de vue sentimental, c'est peut-être que si, genre en premier rendez-vous, le garçon ou la fille finalement vous plaît pas trop, faut dire oulala, faut pas trop qu'on s'approche, faut pas qu'on s'embrasse, surtout Covid obligatoire, on reste loin quoi. Du coup, ça peut aider aussi à mettre un vent à quelqu'un quoi.
Voilà, ça permet de mettre un peu de distance ou d'avoir des excuses, certes. Moi, ce qui m'inquiète le plus et ce qui je trouve assez douloureux, c'est évidemment cette idée que nous avons, que la relation à l'autre peut être dangereuse, qui est amplifiée par ce processus-là. Donc je crois que ne l'utilisons pas seulement pour s'enfuir, mais essayons de nous apaiser. La sexualité et les rapports humains ne sont pas dangereux en temps habituel, et y compris en temps de Covid.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, c'est la journée mondiale du cœur, mais on va s'intéresser au cœur uniquement de la moitié de la population. Il sera question du cœur des femmes. Tout de suite, eux aussi, ils ont un cœur, c'est certain. On cède la place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie, bienvenue dans 2 heures d'histoire déconnante, historiquement votre 3 jours, 3 figures de l'histoire qu'a priori tout oppose et qui pourtant partagent un point commun. Aujourd'hui Stéphane, quelle est notre thématique?
T'arrêtes de gueuler, non, ce sont les colériques.
Ah, les colériques
dans l'histoire, oui. Vous connaissez Henri VIII d'Angleterre.
Bon, je le connais bien. Oh,
il était tellement énervé que parfois il raccourcissait ses épouses. Claude François était très énervé aussi, il envoyait des notes dactylographiées pour remettre les pendules à l'heure auprès de ses collaborateurs. Et puis vous avez choisi qui?
C'est-à-dire que vous prenez des colériques mais morts, comme ça ils ne peuvent rien vous faire. Moi je m'attaque à un colérique très vivant, Jean-Luc Mélenchon.
Ah, très bien.
Merci beaucoup messieurs, nous vous souhaitons une très belle émission. On sera à l'écoute évidemment avec le docteur Jimmy Mohamed et Catherine Blanc, mais vous aussi surtout restez sur Europe 1.